Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves.
C'est ce qu'on fait ce matin, comme Jean-Jacques Goldman. On va au bout de nos rêves, on tente de les comprendre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et toujours accompagnés de la psychanalyste et coach Florence Lautredoux. Alors, avec elle, on décortique nos rêves et peut-être même leur signification. Florence, vous, je crois que vos rêves vous ont indiqué, on a appris ça en préparant l'émission ensemble, hein, vous ont indiqué un jour qu'il était temps de terminer une histoire amoureuse ou même de quitter un travail. Mm-hmm. Mais vous aviez rêvé quoi qui vous a permis de prendre cette décision, justement ?
Le travail, c'était une histoire de train. À l'époque, je vivais à l'étranger et en fait, c'était un train. J'hésitais à rester et on m'indiquait que je devais prendre un petit train qui, en l'occurrence, correspondait à l'endroit où j'étais. Je travaillais à la Commission européenne pour rejoindre un grand train. Et là, il y avait un magnifique Thalys. Et Thalys, je vous fais pas un dessin, c'est Bruxelles-Paris, quoi. C'est à l'époque, j'étais voilà. Et donc, il était important de continuer dans l'un pour aller vers l'autre parce que j'hésitais à carrément aller vers une autre voie et je voulais rentrer en France.
Oui. Donc vous avez pris le Thalys.
J'ai pris d'abord je suis restée dans le petit train, ouais. Pour ensuite prendre le Thalys. Mmh. Ce n'était que des signes où le rêve, enfin la nuit et la journée, ça a été quelques mois comme ça se répondait.
Et l'amour, l'histoire d'amour pour le coup.
L'histoire d'amour, c'était autre chose. C'était effectivement la fin d'une histoire où il n'y a plus vraiment de connexion, on n'est plus très heureux et on n'arrivait pas de part et d'autre d'ailleurs à décider d'arrêter. Et un jour, j'étais chez des amis, je passe une très bonne soirée chez eux, un week-end où je vais seule. On aurait dû aller à deux, mais là je suis allée seule. Je me couche et le matin, une voix très métallique, mais qui n'était pas ma voix, me dit « le temps est venu de s'en aller ». Oui. C'était d'une clarté, c'était chirurgical. Et je pense que c'était mon ange gardien, ou mon âme, ou mon grand soi. Enfin, c'était pas moi qui parlais comme ça. Et c'était implacable, en revanche. Et je pense que si je n'avais pas
écouté ce rêve
ou cette voix-là, ça n'aurait pas été très bien.
Oui, là, il n'était pas difficile à décrypter.
Celui-là,
il fallait juste l'écouter.
Ah, bah, parfois, ça peut être des mots. Hein. Ouais, certaines personnes n'ont pas des scénarios, mais se réveillent avec une mélodie dans la tête. Moi, j'invite à retrouver la chanson qu'il y a derrière, parce que les paroles seront souvent le message. Perso, moi, j'ai un DJ à l'intérieur. J'ai beaucoup de mélodies le matin. Beaucoup plus que d'histoires, souvent.
Est-ce que, Florence, vous pouvez nous dire à quel moment, en fait, de la nuit, les rêves interviennent durant notre sommeil? Je ne sais pas, il y a un moment plus propice, au début de la nuit, à la fin?
Plutôt, alors, on considère, je ne suis pas une spécialiste du sommeil, néanmoins, j'ai quelques connaissances, il y a des cycles de sommeil, et on dit que le rêve, mais ce n'est pas toujours non plus comme ça, intervient en fin de cycle, en sommeil paradoxal. Et effectivement, les premiers temps sont plutôt des temps de réparation physiologique, où le sommeil est actif, mais utile.
Le cerveau se nettoie.
Voilà, ouais. Une réparation des boulons, des tuyauteries, enfin tout ça, et un reset de tout. Et vous voyez, c'est pas scientifique. Mmh. Et à la fin, en revanche, de ces cycles-là, il y a effectivement un moment de rêve. Ce qui explique souvent qu'il peut y avoir, au milieu de la nuit, parfois on se réveille, alors un faux besoin ou un vrai besoin, mais qui est d'aller faire pipi, par exemple, mais c'est très souvent, ça peut être aussi une ruse de notre inconscient pour qu'on se réveille avec un rêve en tête, puisque c'est en fin de cycle. Ah, et classiquement, le matin, si on ne se malmène pas en se mettant des réveils trop tôt, en fin
c'est souvent
matinée,
là qu'on se réveille avec. Moi, c'est vrai, c'est au petit matin, vraiment,
petit
qu'il y a
matin,
parfois des
souvent.
Choses qui surgissent, effectivement,
voilà,
au réveil.
Si le sommeil est suffisant.
Mais Florence, pour les gens qui travaillent en horaire décalé, il y en a, hein, comme Julia, qui se lève à 3h30 tous les jours. Est-ce que les rêves, ils sont toujours possibles et aussi intenses quand on a. Je ne dis pas qu'elle ne dort pas, mais qu'on est quand même aussi décalé par rapport au jour, par rapport aux autres aussi.
Bah, si Julia trouve son rythme. Enfin, après, c'est une question de confort personnel.
Alors,
si
moi, en l'occurrence, je ne me souviens pas de mes rêves, mais parce que j'ai la sensation, ce que vous avez dit tout à l'heure, que peut-être. J'ai mon mental qui est trop sollicité en journée, et donc voilà. Mais en vacances, je rêve.
Voilà.
Alors pourquoi ?
Ben parce que vous êtes détendu, puis vous n'avez pas la pression. En fait, le rêve, il y a toujours un conflit entre notre inconscient qui a des messages à nous faire passer et notre conscient, qui est notre ego, qui est notre mental, qui est en prise avec la journée, les projets, les éventuelles inquiétudes, anxiétés qu'on peut avoir par rapport à ces projets. Et en fait, la nuit, on détend. Donc l'inconscient peut nous envoyer des messages. Mais parfois, le mental, qui n'aime pas que les choses changent trop dans nos vies, censure. Et donc, la meilleure façon de censurer, c'est de nous empêcher de nous souvenir de nos rêves. C'est pour ça qu'on recommande aux gens qui veulent s'en souvenir de les noter.
J'allais vous dire de tenir donc un journal de rêves. Ça, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on conseille.
Bah oui.
Mais vous le conseillez de le faire, ce journal, uniquement pour les rêves très marquants. Parce que bah, moi, comme Clément, il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que je réparais le digicode de mon immeuble. Je ne suis pas sûre que
c'est
un grand intérêt de mettre ça dans le carnet, non ?
Mais si, parce que, enfin, bien sûr que si. Bien sûr, on rêve tous de faire des rêves magnifiques dans des forêts d'émeraudes, avec des jaguars et des gens. Mais. Les rêves sont, de toute façon, si l'image nous accroche, quand bien même elle est bizarre, étendre son linge, réparer le digicode, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a un message derrière. Mmh. Donc, les noter, oui, parce que ça permet après de le noter, noter votre émotion, ce que vous ressentez quand vous avez fait ce rêve-là. Parfois, on peut être absolument en extase parce qu'on a réparé son digicom.
Ah, mais j'étais très fière parce que je suis incapable de faire ça dans la vraie vie, par contre.
C'est ça qui est intéressant. Ça dit des choses.
C'est la sensation.
Et vous verrez, quand vous relirez ça dans la journée, surtout si vous lui accordez un peu de temps le matin en buvant votre café ou votre thé en disant tiens, c'est quand même bizarre cette joie. Et puis, ah, mais c'est vrai que le digicode, j'ai failli être coincée. Vous voyez, associer librement. Et le fait de relire, même si c'est trois mots, vous associez. Et très souvent, au fil de la journée, vous allez avoir des messages. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez lire le message. Donc, c'est comme si on vous envoyait une lettre. Ça vaut le coup de même noter. Et du coup, vous la relisez, vous y repensez dans la journée.
Pour améliorer notre qualité de sommeil et peut-être même celle de nos rêves, on va faire appel à présent à un autre expert. Et c'est vous, Benjamin Lubzinski. Bonjour.
Bonjour Julia.
Vous êtes, je le rappelle, hypnothérapeute, vous avez une chaîne YouTube et vous avez récemment sorti un livre chez Albin Michel qui s'appelle « Maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose ». Alors est-ce qu'on peut utiliser par exemple l'hypnose justement pour améliorer notre sommeil, pour le rendre plus profond par exemple? Et si oui, comment on s'y prend?
Alors, il y a eu un essai clinique très intéressant. On faisait vivre sous hypnose l'expérience suivante. On était un poisson et on plongeait de plus en plus profondément dans la mer. Et on se rendait compte que plus on plongeait profondément et plus ensuite le sommeil était profond. Et si on allait dans le sens contraire, le sommeil devenait plus léger. Donc effectivement, l'hypnose permet d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et donc beaucoup plus récupérateur. Et on peut l'utiliser aussi pour travailler sur ses cauchemars, pour travailler sur ses rêves lucides. Enfin, vraiment, c'est assez génial comme outil pour l'avoir à sa disposition.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, vous avez parlé de cauchemars récurrents. Je crois que vous avez un truc pour ne plus en faire justement. Quelle est votre astuce, quelle est la marche à suivre?
Alors la marche à suivre, elle est vraiment très très simple. C'est de repenser à son cauchemar et de donner une joyeuse fin à ce cauchemar. Moi je me souviens par exemple quand j'étais petit, j'avais un cauchemar assez terrible, assez commun. C'est le cauchemar où une sorcière vient dans votre chambre, vous sentez qu'il fait froid, vous réfugiez sous les draps. C'est absolument terrible, c'est vraiment un cauchemar très très fréquent et également chez les narcoleptiques. Et une fois, je me suis, dans le rêve, je me suis dit, tiens, il faut que je m'en aille. Et je me suis parti avant l'arrivée de la sorcière. Et c'est, le cauchemar a disparu. Bon, on peut le faire dans le rêve, mais on peut le faire aussi à l'état de veille ou pendant une transe hypnotique. L'idée, c'est d'utiliser le cauchemar pour en transformer la fin, se rendre compte que c'est un cauchemar, prendre de la distance et lui donner une fin heureuse, quel que soit le cauchemar. Donc finalement, c'est un entraînement qui est très pratique à faire et qui a été vérifié cliniquement par les thérapies cognitives et comportementales. Donc on sait que ça marche.
Et dites-moi Benjamin, est-ce que c'est, vu ce que vous venez de nous dire, est-ce que si je me concentre bien les quelques heures avant le sommeil, est-ce que ça peut jouer un rôle sur mes rêves? Est-ce que je peux les diriger un peu, mes rêves?
Alors, on sait déjà que on emporte une partie de ce qu'on vit environ une heure avant le sommeil. Donc, l'idéal, par exemple, dans mon livre, j'ai fait une séance d'hypnose qui permet de se détendre profondément, d'imaginer de belles choses, parce que, en fait, c'est avec ça que les rêves vont se construire en grande partie. Et aussi, dans cette séance d'hypnose, il y a un travail sur les rêves lucides. Pendant longtemps, on n'y a pas prêté attention aux rêves lucides. C'est assez récent, l'intérêt qu'on y porte. Maintenant, l'INSERM travaille dessus. Il y a beaucoup de neuroscientifiques qui travaillent dessus. C'est quoi un rêve lucide? C'est simplement un rêve dont on prend conscience. Et à partir de là, il se passe plusieurs choses. Soit on a simplement conscience qu'on est en train de rêver, soit on est capable d'agir, de parler, soit on arrive carrément à changer le décor. Et effectivement, pour ceux qui ont la chance d'avoir un vrai entraînement sur les rêves lucides, on peut décider de ses rêves et faire les rêves les plus merveilleux. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'intérêt que ça a pour le cerveau. C'est-à-dire, avec les rêves lucides, va-t-on pouvoir guérir les traumatismes? Va-t-on pouvoir travailler sur le deuil? Vous savez, quand on perd quelqu'un de cher, souvent on le voit dans ses rêves. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des rêves agréables, ça peut être des rêves qui sont entre les deux, mais qui sont quand même amers. Est-ce que parler à la personne qui est partie, est-ce que lui dire au revoir, ça aiderait par exemple le deuil? On ne le sait pas encore, mais tout ça, c'est en train d'être étudié.
Merci beaucoup Benjamin pour cet éclairage hypnotique. Je reviens vers vous Florence, on évoquait à l'instant les rêves lucides. Est-ce que selon vous, on peut contrôler ses rêves ou quand même ça reste toujours un art qui nous échappe?
Si, bien sûr. Comme on parlait du bouddhisme, ou on parlait même de tous les travaux qui sont réalisés, puis de certaines personnes qui ont la chance de faire des rêves lucides. Pour moi, c'est une chance de pouvoir rêver et d'être conscient qu'on est en train de rêver.
Ces rêves-là, ils sont plus précieux que les autres?
Moi, j'aime pas. En fait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est le rêve, pour moi, il est enfant de bohème, quoi. Il n'y a pas de classification, il n'y a pas de rêve plus puissant, meilleur que d'autres. Si, on sent par moments, on a des rêves clairement très indicatifs ou d'un chemin à suivre, les fameux rêves du grand soi ou de l'âme. Pour le reste, non, c'est un autre type de rêve, c'est un autre type de rêveur.
Eh bien, merci Florence. On sera de retour avec vous dans quelques minutes pour cette émission consacrée à nos rêves et à leurs secrets. Quels sont les messages que notre vie nocturne essaie, qui sait de faire passer à notre vie diurne? On va continuer de tirer tout ça au clair. Alors, restez avec nous sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.